bonsoir à tous. Alors que la loi immigration a été adoptée, on verra que des migrants réussissent leur insertion par le travail en Nord-de-Sèvres. Toutes les communes de l'agglo de Béhom ont défini leur zone d'accélération des énergies renouvelables et la collectivité a acté ses décisions hier soir. La Confédération paysanne des Deux-Sèvres inquiète face au projet de méthanisation en cours d'élaboration à Noël-les-Aubiers. Son porte-parole s'en expliquera. Le réseau des bibliothèques de l'agglo de Béhom va se réorganiser. Toutes ne conserveront pas leur fonctionnement actuel. Boca Box des Deux-Sèvres, nouveau nom du club bressuré depuis la création récente d'une section à Neuilly-les-Aubiers.
Du côté de la météo, domination des nuages pour demain jeudi.
Vous le savez, la loi immigration a donc été adoptée hier soir par l'Assemblée nationale avec 349 voix pour, 186 contre et 38 abstentions. Les députés de Sévrien n'ont pas voté de la même manière, y compris les deux élus de la majorité, puisque si Jean-Marie Fievé s'est aligné, Bastien Marchive s'est abstenu. Delphine Bateau a, elle, voté contre ce projet de loi que le Rassemblement national considère comme une victoire idéologique. L'emploi des migrants et leur intégration font donc bouillonner les politiques au plus haut niveau. Du travail contre des papiers ou des papiers de séjour contre du travail. Au cœur des territoires, la gestion est plus réaliste, comme l'explique Frédéric Mangean, facilitateur des clauses sociales à Thouars, Bressuire et Loudun. Son job, c'est précisément de faire le lien entre les migrants et les employeurs qui ont du travail. Frédéric Mangean, au micro-colline de Dominique Hérault.
Plutôt que d'avoir des gens qui passent d'une structure à l'autre pour essayer de trouver du travail, et le travail leur permet d'avoir des papiers, nous on a des entreprises qui ont des besoins, donc on peut leur proposer le public. Souvent ça matche bien d'ailleurs, nous on s'est rendu compte qu'il y avait des freins, mais qu'on était capable, si on communiquait les uns avec les autres, de faire intégrer ces gens dans les entreprises, et que la plupart du temps ça marchait très très bien en plus. Donc, il faut qu'ils aient l'autorisation de travailler, mais généralement leur autorisation de travailler, elle est sur courte durée. Et s'ils obtiennent ce travail et qu'il y a des promesses d'embauche derrière, sur du temps plus long, ils vont avoir des papiers qui leur permettent de rester beaucoup plus longtemps et de trouver une situation beaucoup plus stable. On a aussi des situations où l'employeur est OK pour signer une promesse d'embauche, mais il ne faut pas que les papiers attendent 3 mois ou 4 mois, parce que il a besoin de cette personne dans l'entreprise. Donc, il faudrait pour ça que ça aille un tout petit peu plus vite au niveau administratif.
Une trentaine de migrants pourraient intégrer un emploi vacant sur ce périmètre Thouars, Bressuire, Loudun. Encore faut-il que les centres d'accueil des demandeurs d'asile soient informés, car les exemples sont là pour attester de leur valeur, la valeur de leur engagement, de l'engagement de ces déplacés. Frédéric Mangean.
Il y a des belles réussites, des gens qui étaient sur le territoire depuis au moins 2 ans, principalement avec des Afghans, avec aucune heure de travail, parce que personne n'osait les mettre en emploi parce qu'ils ne parlaient pas français, entre autres, sans savoir vraiment quelles étaient leurs compétences. Et grâce aux clauses sociales, on a réussi à avoir cette première heure de travail qui a donné des contrats aujourd'hui CDI ou CDD très longs. Ouais, une des très 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 belles réussites. Malgré les difficultés administratives, on a aussi, parce qu'on est capable de mettre des beaux dossiers en place, on a quand même aussi les services de l'État au niveau des Deux-Sèvres qui peuvent nous aider.
Et c'est la raison pour laquelle une réunion d'information a été organisé dernièrement à Thouars pour mettre de l'huile dans les rouages administratifs, dans l'esprit du gagnant-gagnant. Et puis sachez que pour être complet, que cette semaine à Paris, le guichet des clauses sociales du Nord-Poitou, animé par Frédéric Mangean, que vous avez entendu il y a quelques instants, s'est vu décerner un trophée national pour la mixité de son public. Le prix parle de lui-même. Reportage signé Dominique Hérault. Des antibassines condamnées à des peines d'amende. 3 prévenus étaient poursuivis pour avoir participé à la manifestation de Sainte-Soline d'octobre 2022 et de mars 2023, pourtant interdite par la préfecture. Ils ont été reconnus coupables et copent chacun d'une amende de 135 euros. Un quatrième qui s'est défendu d'y avoir pris part s'est aussi vu infliger une amende du même montant, mais pour ce dernier, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier.
Elles ont toutes délibéré.
Les 33 communes de l'agglo de Béhom se sont en effet positionnées sur les zones d'accélération des énergies renouvelables qu'elles ont déterminées comme étant des parties de leur territoire pouvant favoriser leur développement. On parle d'éolien, même si localement ce mode de production n'est plus vraiment en odeur de sainteté, de centrales photovoltaïques sur des sols dégradés ou pollués, d'ombrières photovoltaïques, notamment sur les parkings, ou encore de parcs agri-photovoltaïques. L'agglo de Béhom a ainsi validé hier soir les décisions des différents conseils municipaux en précisant bien que la collectivité restera maître du jeu, notamment au travers du PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, qui intégrera des critères de bonne conduite imposés aux porteurs de projets en matière environnementale ou encore d'éventuelles nuisances pour les riverains. Pierre-Yves Marolo, le président de l'agglomération du Bocage Bressuret.
On sent bien que les plus grosses difficultés sont autour des éoliennes et puis autour aussi de l'agro-voltaïque où il faudra effectivement être vigilant. Le problème aujourd'hui, on le sent bien, c'est que on a des porteurs de projets qui vont directement voir des propriétaires, que quelquefois on est mis devant le fait accompli, et c'est à ce moment-là qu'il faut que justement on se positionne et qu'on accepte ou qu'on refuse les projets qui nous seront présentés.
Est-ce que le PL, lui, sera également une sorte de garde-fou dans ces projets-là ?
Ben oui, il doit l'être, il faut qu'il le soit, le PLUI, et puis derrière aussi la volonté des élus. Il est important que l'agglo et les communes soient sur la même longueur d'onde.
Est-ce que ces zones d'accélération ne pourraient pas être un frein au développement économique ?
Alors, c'est ce qu'a souligné entre autres un de mes adjoints, Denis Prissé, pour ne pas le citer. Il soulève un problème qui est différent, mais il soulève un vrai problème. D'un côté, on va très vite pour ces zones d'accélération, je ne sais pas si c'est lié au mot accélération, et d'un autre côté, on va beaucoup moins vite sur tout ce qui est domaine économique.
Et l'économie, c'est bien ce qui fait la force d'un territoire. Des projets peuvent en effet devoir faire preuve de patience, parfois durant de nombreux mois, avant de pouvoir se concrétiser, d'où une certaine frustration de leurs initiateurs.
La Confédération Paysanne des Deux-Sèvres en alerte sur le futur projet de méthanisation de Neuilly-les-Aubiers.
Cette unité de méthanisation portée par Engie Bios, filiale du groupe industriel Engie, dédiée au biométhane, devrait voir le jour en 2026. Un compromis de vente de terrain appartenant à l'agglomération du bocage bressuré, zone de Proulin, à côté des abattoirs Galliance, a été validé. Un projet qui interpelle la Confédération Paysanne, venue exprimer son inquiétude sur place cet après-midi. Son porte-parole, Benoît Jaunet.
On est plutôt très interrogatif parce qu'on voit les choses par voie de presse où il y a un assemblage qui nous dit pourquoi pas récupérer les déchets industriels de l'abattoir, peut-être un potentiel de produits agricoles. Et là, aujourd'hui, on vient plutôt interroger en disant mais avec quoi il va être nourri, ce méthaniseur? Parce qu'aujourd'hui, ceux déjà en place, même s'ils pouvaient être vertueux sur le territoire, aujourd'hui, ils ont emmené une diversification qui prend de plus en plus de fourrage sur les terres agricoles, qui vient de plus en plus concurrencer le fourrage pour nos animaux. Et c'est vrai que ça, c'est un réel problème. Ça emmène derrière une inflation des coûts des fourrages, en concurrence les années de sécheresse, une envie pour certains de s'agrandir et donc de faire des cultures spécialisées dédiées à la méthanisation. Donc là, aujourd'hui, on préfère être interrogatif et venir alerter pour avoir des réponses et préciser que nous, à la Confédération Paysanne, on n'a rien contre la méthanisation. Ce qui nous pose problème, ça peut être son échelle sur le territoire avec lequel il est fait et avec quoi il est alimenté. Tant que ça restera un produit, une méthanisation industrielle dans une zone industrielle, ben, ça nous regarde peu. Effectivement, si ça vient venir toucher le domaine agricole, on va surveiller ça.
La Confédération Paysanne, qui en termes agronomiques, insiste sur la qualité des terres de ce secteur qui appelle à conserver le carbone dans les sols plutôt que de l'envoyer dans les tuyaux. Fin de citation. En revanche, le syndicat agricole, qui était aussi monté au créneau pour en dénoncer le manque de budget propre aux mesures agro-environnementales et climatiques, s'est dit satisfait de la nouvelle enveloppe de 150 millions d'euros annoncée par le ministre de l'Agriculture. Elle vient s'ajouter aux 820 millions initialement prévus.
Effectivement, on est très satisfait de l'annonce. Elle est un peu tardive parce qu'on a commencé à se mobiliser quand même il y a un mois et demi. On a alerté dès le printemps que l'enveloppe ne serait pas suffisante pour répondre aux besoins. On sent bien que les gens ont envie de changer de système, de pratique agricole, et on a besoin d'être soutenu par l'État. Donc tant mieux, 150 millions. On ne sait pas encore comment va être fait les arbitrages et la répartition territoriale. Ce que je sais, c'est qu'en Nouvelle-Aquitaine, il nous manque encore 60 millions d'euros pour satisfaire l'ensemble des demandes 2023. Donc j'espère qu'on va pouvoir en récupérer une enveloppe conséquente. Et c'est bien la mobilisation de la Confédération Paysanne avec le réseau CIVAM qui a priori permis cette rallonge budgétaire. Et si elle est bien répartie pour 2023, pourrait permettre de satisfaire un grand nombre des demandes.
Voilà, reportage complet signé Jacqueline Pinon.
On évoque maintenant, Patrice, la réorganisation du service des bibliothèques de l'agglo de Bay.
Suite à une réflexion globale menée depuis 2019 sur l'ensemble des 23 bibliothèques du territoire, dans les mois à venir, le réseau sera constitué de 13 bibliothèques communautaires, de points retrait biblio et de bibliothèques communales associées au réseau. Sur le Bressuret, trois d'entre elles sont concernées par cette réorganisation: Terve, Saint-Sauveur de Givremais et Beaulieu-sous-Bressuire. Les explications d'Emmanuel Ménard, maire de Bressuire.
Après avoir vu le nombre de personnes sur certaines bibliothèques, notamment des communes déléguées, eh bien nous avons pu rediscuter de l'organisation globale sur le territoire de l'agglo de Bay. Et nous arrivons donc à 13 bibliothèques. dont une tête de secteur qui est quand même sur Bressuire, mais où sur Saint-Sauveur-et-Terreville, il y aura désormais des points relais. Et peut-être sur Beaulieu, nous l'espérons, une équipe de bénévoles qui prendrait cette bibliothèque en main. Alors oui, il y a des bénévoles de motivés sur Beaulieu, mais c'est sûr qu'ils ont envie de grossir l'équipe. Donc j'invite tous les Belle-Île-Océens et Belle-Île-Océennes à se joindre à eux pour faire vivre ce lieu au cœur de la commune déléguée.
Emmanuel Ménard, maire de Bressuire, cette réorganisation des bibliothèques de l'Aglo de Bé devrait être effective en juin 2024. En bref, demain soir, le fauteuil rouge de Bressuire projettera le documentaire Les Voix jaunes, portant sur le mouvement des Gilets jaunes, documentaire réalisé par la photographe et documentaliste Sylvestre Menzer. Cette dernière sera d'ailleurs présente pour débattre avec le public à la fin de cette projection initiée par la Ligue des droits de l'homme. Rendez-vous au fauteuil rouge de Bressuire demain, jeudi, à partir de 20h.
La boxe se développe à Noël-les-Aubiers.
Le boxing club Bressuire va devenir Boca Box des Deux-Sèvres. Les entraînements ont déjà commencé le jeudi soir sous la conduite de Jonathan Huvelin dans la salle de la ronde avec des séances le lundi et donc le jeudi pour une vingtaine de garçons et filles dès l'âge de 13 ans. À Bressuire, les entraînements ont lieu le mardi et le vendredi. Alain Courteil.
Avec la ville, on a pu monter des potences, les sacs bien sûr, hein, pour la frappe. Bon, on ne pourra pas mettre de ring parce qu'on est dans un donjon, donc c'est pas possible. Mais bon... Déjà, on a la surface, déjà, pour s'entraîner et tout. Quand il fera beau, on a un terrain qui est derrière, j'ai vu ça. On pourra courir, déjà. Et c'est essentiel au sport, parce que la boxe, ça demande énormément de cardio. Un gros potentiel ici à Neuilly-les-Aubiers, puisqu'on a déjà deux filles de Neuilly-les-Aubiers qui sont qualifiées pour les championnats de France amateurs, ce qui est déjà pas mal.
Comment s'appelle-t-elle ?
Alors, c'est justement les filles de l'entraîneur Shena Huvelin et Valinka Huvelin. Valinka était championne de France en boxe éducative.
Le président du club, Alain Courteil, est ravi d'ouvrir cette nouvelle section, d'autant que Noël-les-Aubiers dispose de bonnes installations et que la municipalité a joué le jeu et prépare conjointement avec le club l'organisation d'un gala au mois de mars, le 23 précisément, avec des combats pro et amateurs. Arnaud Jollet, adjoint au maire de Noël-les-Aubiers, notamment chargé des sports.
Comme on a pu déjà le proposer sur des événements précédents, c'est-à-dire le championnat de France de Parabad ou le futsal l'an dernier, ou là récemment encore le show de gymnastique, les enfants des écoles seront aussi mobilisés, donc les après-midi et la journée du vendredi, pour venir découvrir ce que c'est que la boxe.
Il y a en tout cas un potentiel, selon Alain Courteil, que vous avez pu entendre tout à l'heure. Nicolas Billy, en responsable des sports à la ville, le pense également.
C'est des jeunes ados qui n'aient pas forcément d'activité sportive et qui se retrouvent là sur cette nouvelle activité qui vient de prendre et de bien prendre. Une vingtaine de signatures en deux mois, c'est plutôt intéressant, c'est un bon début. Donc en effet, c'est une offre, c'est pour ça que moi je l'ai appuyé. On pensait qu'il y avait un potentiel sur Noël-les-Aubiers, lui on était persuadé, donc je pense qu'on est sur le bon chemin avec cette nouvelle offre.
Cette passerelle avec les écoles, c'est important aussi pour ancrer un sport sur une commune.
C'est un sport olympique, donc ça rentre tout à fait dans nos missions et dans nos volontés là en tant que terre de jeu. C'est aussi montrer que la boxe c'est pas la violence, hein, c'est de la boxe éducative qu'on va leur faire découvrir sur la journée du vendredi. Donc il y aura cette passerelle le 22 mars avec tous les collégiens du collège Abbé Pierre de Noël-les-Aubiers qui pourront découvrir la boxe éducative avec les éducateurs du club, les éducateurs de la commune et qui feront donc ça fera la passerelle en effet avec le gala du lendemain.
Retenez la date donc de ce gala de boxe à Neuilly-les-Aubiers, ce sera le 23 mars prochain. Reportage signé Fabien Gazot.